enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Continuons ce matin, c'est la deuxième partie. Nous allons continuer dimanche matin prochain, dans les prochaines semaines, de la vision Nouvelle Vie 2008. Avec un thème, avec comme thème, chercher d'abord le royaume de Dieu aujourd'hui et dans les prochains dimanches, nous allons parler de la puissance du royaume. Et c'est des messages de lancement de début d'année et de vision. Tous les leaders de l'Église de Nouvelle Vie ont été appelés, ont été demandés et ils le font passionnément. D'aller chercher Dieu avec leur comité. Il y a toutes sortes de mini-retraites de leadership à partir des ministères auprès des enfants, hommes, femmes, célibataires, des gens partout dans l'Église, des leaders qui vont devant Dieu pour aller chercher une vision de la part de Dieu et revenir en janvier, en février. Tous les lancements des départements vont se faire avec une vision de la part de Dieu. C'est un grand privilège. Je veux simplement vous dire, c'est quelque chose de précieux de pouvoir être un endroit ensemble où il y a une vision. Où il y a une vision, et c'est aussi une grande responsabilité. Je nous sens, le leadership de l'Église investi avec un sens de responsabilité. Nous n'oserions pas juste entrer dans une année, débouler la fin d'une année pour finalement apparaître, arriver dans la prochaine année, simplement en continuant le petit train-train. Nous sommes au jour 14. D'un 21 jours de jeûne et de prière, parce qu'il n'y a pas d'autre façon pour nous de faire que de terminer une année dans la reconnaissance et l'action de grâce, mais de commencer la nouvelle année en cherchant Dieu, en allant devant lui afin qu'il écrive sa vision sur nos cœurs. C'est quelque chose de très, très important. C'est quelque chose de vital, souvent pris à la légère. Et j'aimerais vous dire que la parole de Dieu nous avertit fortement lorsque, par exemple, nous lisons au Proverbe 29-18, « Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. » Et j'aimerais vous dire que cette réalité, je l'ai vue tristement, et c'est un grand sujet de prière, de larmes, et aussi d'avertissement, et ça m'aide à protéger mon âme. Je veux dire à chacun, n'ose pas, ne te permets pas d'être assis ici sans avoir une vision de la part de Dieu. Si l'ennemi, la vie, les circonstances ont éteint, ou amenuisé, ou diminué, tiédi, ta vision, viens avec nous devant le Seigneur. C'est quelque chose de grave et dangereux de demeurer à l'endroit où j'ai pas un cœur qui aspire, qui croit et qui espère et qui combat et qui a une vision pour les choses de Dieu. Lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Et ça, dans tous les mes 25 ans et plus de ministère ici au Québec et aux quatre coins de la francophonie, je l'ai vu de mes yeux. C'est quelque chose qui est pathétique et c'est quelque chose qui est terrifiant. C'est vrai que lorsqu'il n'y a pas de vision, les chrétiens sont sans frein. Lorsqu'il n'y a pas de vision, ils sont sans frein dans leur indifférence, sans frein dans une église qui est sans vision. Ils peuvent être sans frein dans leur méchanceté les uns envers les autres, dans leur incapacité de pardonner, dans leur capacité de mettre l'emphase sur des choses sans importance, et ça devient tout leur univers. Lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Il est sans frein dans son égocentrisme. Il peut devenir sans frein dans un mysticisme malsain qui est pourtant super loin de la vraie action du Saint-Esprit. Il peut devenir... Le peuple est sans frein. Lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple peut devenir sans frein dans son incapacité à donner ou à se donner. Mais j'aimerais vous dire que si c'est vraiment une réalité, que là où il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein, j'aimerais vous dire que là où il y a une vision, le peuple est sans limite. Que lorsque nous avons une vision, le peuple est sans limite dans sa capacité d'aimer et dans sa capacité de louer et d'adorer, sa capacité de se pardonner. Et sa personne a dit « Amen, mais je vais continuer quand même un petit peu. » Sans limite dans notre capacité de beauté devant Dieu, de sanctification, sans limite en 2008, parce qu'il y a une vision dans la capacité que nous avons d'accomplir des choses extraordinaires pour le royaume de Dieu. C'est pour ça que nous applaudissons et rendons grâce à Dieu pour la vision qu'il lui donne. Là où il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Alors nous avons une vision, on n'est pas exhaustif, c'est pas tout, mais certaines visions qu'on place devant vous, avec prière et avec crainte et tremblement, mais avec confiance, une vision absolument, des éléments de la vision absolument inatteignables, à moins que Dieu intervienne, hein? Inatteignable sans Dieu et inatteignable sans vous et moi, poursuivant le royaume de Dieu, mais entièrement possible par celui qui nous fortifie. Nos visions pour 2008-2009 incluent, entre autres, nous avons été devant Dieu, nous croyons qu'on peut présenter devant le peuple cette vision pour qu'il y ait 10% de croissance numérique à l'Église Nouvelle Vie. Plus de 300 personnes qui vont s'ajouter à l'Église dans la prochaine année. C'est quelque chose qui est merveilleux, qui est extraordinaire. Et pensez en ce moment à des centaines de personnes qui, au jour d'aujourd'hui, sont aveuglées, sont dans des ténèbres, ne connaissent pas, sont fermées, sont froides ou sont éloignées. Mais parce que vous et moi allons prier, allons croire, allons parler, allons aimer, allons intercéder, allons donner, allons servir, que pendant cette année 2008, ces centaines d'hommes et de femmes vont voir des chaînes tomber et vont passer de la mort à la vie et des ténèbres à la lumière et de la petitesse d'une vie sans Dieu à la vie abondante du royaume de Dieu en 2008. Nous voulons prier pour 10% de croissance financière, pour plus d'impact et de ministère. 150 baptêmes d'eau dans la prochaine année. 100 petits groupes dès l'automne, dont on en phase continuellement accrue vers des groupes de prière. Plus grande, nous prions, nous avons comme vision une plus grande efficacité et impact dans chaque département. Chaque département allant devant Dieu. Et en ce moment, c'est magnifique à voir les dames, ministère des dames qui étaient ensemble en fin de semaine. Et vendredi et samedi, jeûne et prière. Comment est-ce qu'on peut mieux rencontrer les besoins des femmes cette année? Et les hommes, et les célibataires qui étaient en jeûne la semaine dernière. Et ceux qui servent nos enfants. Et les leaders de jeunesse. Plus d'efficacité et d'intervention dans nos soins pastoraux, par exemple. Je rends grâce au Seigneur pour pasteur Denis Morissette, pasteur Daniel Descaries et toute une équipe d'une douzaine d'hommes et de femmes, de pasteurs et d'intervenants en relation d'aide, de conseillers, de conseillères qui cherchent Dieu, qui veulent ajouter à ce qui est déjà là. Il y a un pasteur de garde qui est là chaque jour. Il y a des suivis en counseling offerts à tous gratuitement. Il y a des suivis en relation d'aide. Mais nous voulons incorporer aussi des moments, on va voir la forme que ça va prendre, mais des moments, des mini-retraites de prière avec vous et de délivrance avec vous et des moments afin que la puissance du royaume vienne vous libérer une personne à la fois en 2008. Notre vision, c'est une plus grande implication humanitaire, communautaire, humanitaire dans la communauté. Déjà, ce qui est là, nous vous prions, c'est par le souffle de Dieu que c'est permis. Mais alors que 8000 personnes reçoivent de l'aide à chaque mois, alors qu'ils sont nourris, alors qu'il y a toutes sortes de programmes, à travers l'organisme Action Nouvelle Vie, mais aussi à travers des initiatives de l'Église Nouvelle Vie, nous voulons continuer à aller vers ceux qui souffrent. Il y a des projets que je ne dirai pas ce matin, mais spécifiques qui commencent à prendre forme, maisons pour femmes et autres projets que nous voulons vous présenter en 2008, parce que l'année 2008, c'est une des portions de la vision qu'on met devant Dieu. En 2008, nous allons aussi recevoir des pasteurs, leaders et chrétiens de partout à travers le monde pour la troisième conférence afin que le ciel puisse s'ouvrir. Ça va prendre place du 30 avril au 3 mai. Prenez vos journées à l'avance, journées de congé et tout ça, à partir du mercredi soir jusqu'au samedi soir. David Wilkerson, Carter Condon, Mamadou Karambiri, un pasteur extraordinaire d'Afrique avec une église et un ministère d'impact apostolique à travers le monde francophone. Plein de leaders qui vont être là et quelque chose d'assez émouvant, la pensée qu'il va y avoir des milliers de chrétiens qui vont venir de partout à travers le monde. La dernière fois, on avait 22 nations de représentées et on va vivre ce moment où nous, à l'Église Nouvelle Vie et l'ACF ensemble, nous allons accueillir la francophonie. Et bien plus que nous qui allons accueillir la francophonie, c'est la présence et la puissance du royaume de Dieu qui va accueillir la francophonie et l'embraser pour une œuvre extraordinaire. Je veux même, si c'est la première fois que vous entendez parler de cette conférence-là, dites à la personne près de vous, tu vas voir, tu vas y aller. Dites ça à la personne près de vous. Ça va être quelque chose d'un moment historique, un moment sans égal qu'on va vivre ensemble en 2008. En 2008, notre vision, c'est encore plus, un plus grand nombre de témoignages, de guérisons, de délivrances, de sanctification, de réconciliation, de gens qui retournent au Seigneur, qui reviennent à Dieu, de vies touchées, de vies libérées, telles que Maggie l'a chanté et proclamé, et des gens qui sont radicalement transformés par la puissance de Dieu. Notre vision, notre plus grande vision en 2008, c'est vous. C'est des personnes, c'est des gens qui vont expérimenter le royaume de Dieu, la puissance du royaume de Dieu. Un peuple qui retrouve la clé du royaume dans sa vie. Si tu l'as perdu, quelles que soient les raisons, tu peux la retrouver en 2008 et dire non à une autre année de tourment ou de surplace ou d'inquiétude inutile et perpétuelle. Nous voulons proclamer par la foi que des milliers vont entrer dans une année 2008 en entendant la voix de Dieu qui leur dit partout autour de toi, il y a des gens qui cherchent, ils cherchent leur succès, ils cherchent leur satisfaction, leur plaisir, leur épanouissement, ils cherchent à avoir raison, ils cherchent à être élevés, ils cherchent à monter, des gens qui cherchent des réponses à des questions qui sont là depuis toujours. Mais alors que tous ces gens-là cherchent toutes sortes de choses, la voix de Dieu dit, mais vous cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes les autres choses vont être données par la suite. Combien veulent dire, je veux chercher le royaume en 2008? Cherche le royaume et tout le reste dans le plan de Dieu va t'être donné, car c'est le plaisir, le bonheur, le plan du Père pour vous, sa volonté et sa plus grande joie de vous faire découvrir et vivre le royaume de Dieu dans votre vie en 2008. On va vous appeler à un défi tout simple, mais que je crois va être porteur de bénédiction. On vous appelle à lire avec nous, janvier, février, mars, on voudrait que toute l'Église, des milliers de personnes lisent en même temps l'Évangile de Matthieu, de Marc, de Luc, où vous allez trouver et découvrir le royaume. À chaque fois que vous allez voir le royaume de Dieu, lire, penser, prier, méditer là-dessus, vous allez entendre les messages sur ce que nous allons tous lire ensemble. Et lorsque vous lisez dans les Évangiles, lorsque vous lirez dans les Évangiles et que vous verrez le mot royaume. Ensemble, alors que nous sommes à la découverte du royaume, le mot royaume, dans son étymologie originale dans le grec, basileia, veut dire un univers, une autorité, un règne, une sphère, un gouvernement. Souvent, vous allez voir les deux expressions, basileia, toutéos, qu'on a traduit en français, le royaume de Dieu, spécialement dans les évangiles synoptiques de Marc et de Luc, ou basileia tu uranon, le royaume des cieux, royaume de Dieu, royaume des cieux qu'on retrouve particulièrement dans l'évangile de Matthieu. Lorsqu'on fait l'osmose des deux mots, vous avez un début de compréhension de l'intention divine pour chacun d'entre nous. Une dimension d'autorité et de puissance. Tout ce que le ciel, le royaume des cieux, tout ce que le ciel offre aux hommes et tout ce que Dieu, le royaume de Dieu, tout ce que Dieu offre pour nous, vient même, c'est intéressant dans l'étymologie et les racines étymologiques du mot, il y a même du mot royaume, vous avez aussi banio ou bassis, qui veut dire littéralement une façon de marcher. On peut même tirer du même mot dans le grec, le mot pied. Et vous avez cette pensée que le royaume de Dieu, c'est une façon de vivre et c'est une façon de marcher. Et c'est ce que nous voulons pour chaque personne, que vous découvriez, redécouvriez avec nous, trouviez avec nous les nouvelles façons et les façons éternelles de Dieu, afin que chaque personne puisse marcher d'une façon à s'emparer de tout ce que le Seigneur a pour vous en 2008. Le royaume de Dieu, la puissance du royaume de Dieu qui vient, qui est proche de vous, ce n'est pas quelque chose d'éthérique ou d'abstrait ou de... Pour quelqu'un qui est ici, c'est la puissance, c'est l'onction pour raviver quelque chose qui est mort en toi dans ta marche avec Dieu. Ta louange, ta vie de prière, un certain combat de sainteté que tu as juste même abdiqué, tu as abandonné. Et le royaume de Dieu va venir à toi en 2008. Il va raviver cette partie-là. Pour quelqu'un d'autre qui est ici, le royaume de Dieu, c'est une audace, un courage qui va revenir, un zeste, une joie qui va revenir, une dépression qui va s'atténuer et qui va, comme la vague, se retirer pour faire place à la paix et à la restauration de Dieu. Le royaume de Dieu, pour certaines personnes ici, c'est une paix surnaturelle qui serait impossible par toi-même suite à une tragédie que tu viens de vivre, suite à des choses qui sont inexplicables, mais d'une manière surnaturelle, les bras de Dieu viennent et le souffle de Dieu vient et la main de Dieu met sa main sur son cœur, alors que humainement t'aurais écrasé là, la main de Dieu te relève, te porte, donne un sens où il n'y avait pas de sens et donne la vie où il y avait juste la mort. Quel que soit ce que tu as besoin, c'est le bon plaisir du Père de te donner le royaume en 2008. Quelqu'un, applaudis avec moi le royaume. Nous jeûnons et nous prions afin qu'on puisse entrer ensemble dans le royaume de Dieu. La semaine dernière, nous avons vu ensemble, la semaine dernière, et ne manquez pas, si vous n'étiez pas là, vous pouvez prendre le CD pour être avec nous dans la fondation et vous joindre à plus de 100 000 chrétiens à travers la francophonie par l'Internet qui vont suivre cette série, chercher d'abord le royaume de Dieu. Et la semaine dernière, nous avons découvert la porte et la proximité du royaume. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche de vous. Et aujourd'hui, et cet après-midi, nous allons le vivre, mais dimanche matin prochain, dans les prochains messages, deux messages ou trois, nous allons entrer dans ce que j'appelle la puissance pour le royaume. Prédication, mais la puissance pour le royaume. Jésus prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et ceux qui souffraient de douleurs diverses. Lorsque vous allez lire les évangiles et que vous allez voir le royaume, vous allez lire le royaume de Dieu, vous allez voir continuellement, jumelé presque comme inséparable, vous allez voir qu'avec l'annonce du royaume, il y a toujours l'autorité du royaume. Que, alors qu'il y a la proclamation du royaume de Dieu, il y a toujours la puissance, la pratique du royaume. Alors qu'il y a le message du royaume, il y a toujours les manifestations du royaume. Et c'est extrêmement important, et je prie vraiment que le Seigneur l'écrive sur nos cœurs, parce que je crois qu'il doit y avoir, en anglais on dit « a paradigm shift ». Il doit y avoir une révélation dans nos cœurs, un rafraîchissement à tout le moins, et carrément une repentance, une révélation, quelque chose que je ne voyais pas avant pour plusieurs d'entre nous, et une réalisation que le royaume de Dieu n'est pas en parole seulement, mais il est en puissance. Lorsque nous regardons à la parole de Dieu, lorsqu'on veut définir le royaume de Dieu, l'apôtre Paul a fait une déclaration éternelle qui doit être entendue aujourd'hui. Lorsqu'il a dit, le royaume de Dieu n'est pas. Vous savez, parfois le contraste négatif nous aide à définir. C'est en disant ce que quelque chose n'est pas que ça nous aide vraiment à savoir sa véritable nature. Le contraste négatif est utilisé dans les Écritures souvent pour nous aider à définir, à déterminer, à délimiter, à développer, à définir clairement et à déclarer qu'est-ce que le royaume de Dieu. Puis on le vit ça aussi, nous, face aux choses du royaume de Dieu. Il arrive parfois des choses qui sont faites au nom de Dieu et à travers l'histoire, des choses qui sont faites au nom de Dieu et les personnes qui sont assises ici et même des gens qui ne connaissent pas Dieu, instinctivement, il y a quelque chose en nous qui dit « ça, c'est pas Dieu. Ça, c'est pas Dieu. » On peut dire que c'est fait au nom de la religion. Ça, c'est pas Dieu. Certains des pères dans la foi que j'ai connus anglophones avaient cette expression « This is not God. This is God. This is not God. » Ce discernement. L'apôtre Paul dit, vous avez besoin, puis si vous voulez comprendre c'est quoi le royaume de Dieu, vous avez besoin de savoir ce que le royaume de Dieu n'est pas. Et c'est un exemple tout simple, dans la province de Québec dans laquelle nous sommes, il y a un sondage ce week-end sur les différentes générations et tout ça, et il y a toutes plusieurs générations de gens qui ont été, je ne fais pas un jugement sur un groupement chrétien versus un autre, mais c'est une réalité historique. Qu'il y a des générations de centaines de milliers, peut-être de millions de Québécoises et de Québécois qui ont été repoussés, éloignés jusqu'à aujourd'hui à vie des choses de Dieu, alors qu'il y avait des choses qui étaient faites au nom de Dieu, qui étaient tellement abjectes, tellement, même s'ils ne connaissaient pas la Bible ou le Seigneur, avaient comme quelque chose dans leur esprit qui se révoltait. Lorsque vous pensez aux enfants du Duplessis, vous pensez à des centaines de milliers d'enfants qui étaient violentés, qui étaient abusés, qui étaient traités si abjectement par des personnes qui avaient des discours sirupeux dans la bouche. Il y a quelque chose dans notre âme qui dit, ça, c'est pas Dieu. Ça, c'est pas le royaume. Le royaume de Dieu n'est pas ça. Encore une fois, sans faire un jugement sur une particularité, une sphère particulière du peuple, de la chrétienté moderne, j'ai vécu moi des moments de ces contrastes-là qui te rappellent. Lorsqu'on était à Mexico, si vous allez à Mexico dans la capitale, il y a une cathédrale qui est là avec le plus grand square de Mexico, des milliers de personnes qui sont là souvent sur les cartes postales, dans les vidéos sur la ville de Mexico. Tu vois toujours cette scène-là. Mais je me souviens toujours, j'étais jeune dans l'œuvre de Dieu. Et lorsque tu rentres dans la cathédrale, il y a des guides touristiques qui t'expliquent l'épaisseur en or massif, 14 carats des murs et comment est-ce que ça, ce pan de mur-là jusqu'à telle hauteur vaut tant de millions. Puis je me souviens d'un vitrail qui valait 35 millions de dollars US, juste ce vitrail-là et les murs en or et tout ça et comment ça coûte juste 100 millions à chaque année pour entretenir tout ça. Et je me souviens comment j'étais un peu éberlué. Et tu sortais, je me souviens de cette scène, une immense porte. Vous savez, lorsque tu es dans la cathédrale sombre, puis tu ouvres la porte, la lumière te frappe et tu ouvres la porte. Et je me souviens physiquement collé sur les portes, mais jonchant par centaines les marches de la cathédrale, il y avait des centaines et des milliers d'enfants qui vivent dans la rue puis qui crèvent de faim. Puis il y a quelque chose dans notre esprit lorsqu'on voit ça, et que ce soit dans un segment du corps de Christ, ou que ce soit dans un autre segment évangélique américain, tornitruant, il y a quelque chose en nous qui dit, ça, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu, une poursuite matérielle au nom de la religion. Le cœur de Dieu est pour ceux qui souffrent, et ceux qui ont son cœur vont vers eux. Quelqu'un devrait dire amen. Et c'est comme ça, avec cette passion, que l'apôtre Paul dit, le royaume de Dieu n'est pas ça. 2 Corinthiens, chapitre 4, 1 Corinthiens chapitre 4. Le royaume de Dieu ne consiste pas, le royaume de Dieu n'est pas en parole, mais il est en puissance. J'aimerais, je ne veux pas répéter les choses souvent comme, de cette façon-là ici, mais j'aimerais que vous disiez ces mots avec moi. Je prie de tout mon cœur que ça pénètre votre esprit, parce que votre année 2008 en dépend. Que chaque personne là où vous vivez, j'aimerais que vous disiez avec moi, le royaume de Dieu n'est pas en parole. Il est en puissance. Et c'est important de comprendre le contexte dans lequel l'apôtre Paul a dit ces mots. Si vous regardez, si vous étudiez les Écritures et que vous trouvez ce texte, nous avons souvent des liens directs. Parfois, on ne sait pas à quel moment une épître a été écrite, mais à d'autres moments, il est très facile de faire le lien avec les actes des apôtres. Et tu peux voir, et tous les historiens, théologiens et ceux qui nous aident à étudier les Écritures, et même souvent une lecture très simple, on peut voir, c'est à ce moment ici que ce texte-là a été écrit. Et nous savons, sans l'ombre d'un doute, ce qui était arrivé, ce que Paul vivait, ce que le Saint-Esprit lui permettait de vivre. Et pour notre enseignement à nous, lorsqu'il a dit « Le royaume de Dieu n'est pas en parole, mais il est en puissance. » Lorsqu'il a écrit 1 Corinthiens, les premiers chapitres, nous savons ce qui lui était arrivé. Nous savons qu'il était, qu'il sortait de Athènes. Nous savons qu'il sortait de ce que, d'un récit qu'il trouvait dans les Actes des Apôtres au 17e chapitre. Et nous lisons, et l'apôtre Paul était à Athènes et la Bible nous dit, et les textes vont apparaître à l'écran, que comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit troublé et bouleversé à la vue de cette ville pleine d'idoles. Ne vous trompez pas à penser que lorsque ça dit la ville pleine d'idoles, qu'il y avait des statues seulement. Lorsque vous étudiez ce qui prenait place à Athènes à ce moment-là, qu'au nom de l'idolâtrie, il y avait toutes sortes de cruautés infaites. Il y a plusieurs documents historiques de l'époque qui parlent de sacrifices d'enfants qui étaient offerts, des bébés qui étaient offerts, éventrés et offerts en sacrifice dans leur folie à l'idolâtrie de l'époque. Il y avait des temples où des milliers de femmes, de jeunes et d'enfants, la plupart du temps, de jeunes filles et de jeunes femmes, d'enfants, 13, 14, 15 ans, étaient utilisées comme prostituées dans le temple parce que dans leur corruption et dans l'immondiste, leur façon et philosophie de penser, ils excusaient et ils couvraient leur luxure et convoitise sexuelle avec des teneurs religieuses. Ils disaient littéralement que tu vas au temple et tu vas avoir des relations sexuelles avec une enfant, avec ces prostituées du temple, et tu faisais une adoration à un dieu ou à un autre, à une déesse ou à un autre en le faisant. Et alors que l'apôtre Paul regarde, alors qu'il est à Athènes et qu'il marche dans la ville et qu'il voit ces milliers d'enfants qui sont abusés, qu'il voit toute cette saleté, mais aussi cet aveuglement total et tous ces discoureurs, parce qu'Athènes, c'était le lieu, le carrefour de toutes les philosophies et tous les systèmes de pensée. La Bible nous dit que son esprit était agité à l'intérieur de lui. Et j'aimerais dire qu'encore en 2008, qui que ce soit qui passe du temps avec Dieu et qui prie, si tu vas le moindrement proche du cœur de Dieu, et que tu regardes ce qui se passe sur Internet, et que tu regardes ce qui se passe autour, et ce que tu regardes à la violence et à la douleur et à la saleté qui nous entoure, il y a quelque chose en nous. Si tu vas près du cœur de Dieu, notre esprit s'agite. La croissance d'Église, c'est pas parce que ça serait le fun d'avoir 200 ou 300 personnes de plus. C'est parce que chaque personne qui est prise, on les voit avec les yeux de la foi. Et en ce moment, notre esprit s'agite et dit, Seigneur, il faut que nous fassions quelque chose. Il faut que ton royaume touche des êtres humains. Quelqu'un dit amen. Son esprit est agité à l'intérieur de lui. Il s'entretenait donc, il s'est mis à parler dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu sur la place publique. Avec tous ceux qu'il rencontrait. Il y avait des philosophes, épicuriens, stoïciens, qui se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ce discoureur? Alors ils le prirent, ils l'amenèrent à l'aréopage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle philosophie, idéologie ou religion que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses que nous ne connaissions pas. Nous voudrions donc savoir ce que cela pourrait être. Verset 21 est sans équivoque. L'auteur des Actes, Luc, nous dit, « Tous les Athéniens et les étrangers demeuraient à Athènes et passaient leur temps à dire ou à écouter des nouvelles. » Et Paul, donc, se tint debout au milieu de l'aéropage et il dit, et lorsque vous lisez Actes 17, vous le lirez à la maison, du verset 23 au verset 11, vous avez l'apôtre Paul qui fait un discours exceptionnel. L'apôtre Paul, selon la majorité des historiens, si on essaie de comparer avec nos barèmes d'études actuelles, était détenteur de au moins un double doctorat. Certains disent triple, mais disons un double doctorat. Il a passé des années, des décennies d'études. C'est un érudit extraordinaire sur toutes sortes de sujets. C'est assez paradoxal parce que lorsque tu lis les Actes des apôtres, il entrait partout excepté à Athènes. Il entrait dans les villes et son message était d'une simplicité désarmante. Il proclamait le royaume de Dieu, mais la puissance du royaume de Dieu, la repentance, son témoignage et comment le Dieu veut entrer en contact avec les êtres humains et changer leur vie. Et par la repentance, Dieu peut te changer. Mais là, il est à Athènes, ville de sophistication, ville de discussion. Et on l'amène à l'Aréopage, qui est un endroit où les gens discutaient toute la journée, où les cerveaux les plus grands, certains des philosophes de l'époque sont encore étudiés et sont encore enseignés aujourd'hui dans les universités. Et alors qu'il arrive là, il prononce un sermon, vous le lirez dans les Actes, dans Actes 17, qui est vraiment fascinant, où dans un même discours, c'est vraiment habile, c'est fascinant, c'est intéressant. Et ça, il fait juste ouvrir un peu le voile sur son immense culture et sa connaissance. Dans ce discours de Actes 17, il fait référence à l'histoire, il fait référence à l'actualité de leur époque, il cite leurs poètes, il connaît leur histoire, leur sociologie, il connaît leur philosophie de l'époque. Il le fait d'une manière magnifique qui a dû faire que tout le monde écoutait avec énormément d'intérêt. Et c'est une grande pression en 2008 de chercher à être apprécié par les gens, de chercher à être à la mode, de chercher à être cool, de chercher à être cute, de chercher à être à s'adapter, etc., etc. Puis je parle pas qu'on va se sombrer dans l'ignarité puis simplement couler dans l'ignorance. Mais il y a quelque chose qui s'est passé à Athènes, qui a changé, qui a ramené une réalisation et un retour de Paul. Parce qu'alors qu'il prononce son message, éventuellement, poète, histoire, philosophie, actualité, se met à toucher un peu à tout, avec énormément d'habileté, énormément d'éloquence. D'éloquence, mais il doit en arriver à son message. Alors, verset 30, vers la fin du discours fascinant, il dit, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, acte 17, 30, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Parce que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. » Par Christ, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. À la fin de son discours, l'apôtre Paul dit quelque chose que chaque être humain en 2 minutes a besoin d'entendre ici à Nouvelle Vie. C'est que chacun d'entre nous auront à nous présenter devant Dieu. Nous sommes séparés de lui sans Christ. C'est pourquoi Christ est venu mourir pour nous. Alors qu'il est mort, toutes nos fautes ont été mises sur lui. Et Dieu nous a prouvé, c'est mon Fils, en le ressuscitant. Et lorsque je me repens de mes péchés et de mes fautes, je suis pardonné et je peux entrer dans le royaume de Dieu. Mais la réaction des Athéniens a laissé une marque sur le cœur de Paul pour le reste de sa vie. Parce que lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquaient, les autres disaient, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Et ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Denis, l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Comprenez-moi bien. Il se passe quelque chose ici. C'est important parce que l'apôtre Paul s'apprête à dire, le royaume de Dieu n'est pas en parole, il est en puissance. Et alors qu'il est à Athènes et qu'il donne ce discours et qu'il met tout ce qu'il a, il y a une réalisation qui pénètre son cœur. Qu'à moins que la puissance, que l'onction de Dieu vienne. Parce que lorsqu'il prononce, lorsqu'il se met à parler de résurrection, de repentance, les gens se moquent. Ils se mettent, oh, t'entendras là-dessus une autre fois, on a fini là-dessus, c'est un autre discours, un autre parleur parmi tous les parleurs. Et c'est très précieux parce que il y a quelques personnes qui acceptent le Seigneur. Et je ne veux pas mesurer le royaume de Dieu en nombre et en chiffres. Parce que même s'il y a juste deux personnes ou quelques personnes qui sont mentionnées, la Bible prend le soin d'écrire leur nom. Et je veux dire qu'une église n'est pas mesurée à sa grosseur. Que lorsqu'il y a une personne qui vient à Dieu et deux personnes qui viennent à Dieu, encore aujourd'hui, Dieu écrit leur nom éternellement dans son royaume. J'étais chez un pasteur récemment, un jeune pasteur, et son église connaît de belles choses et tout ça, mais et je n'ai pas demandé rien sur des chiffres ou quoi que ce soit, mais il me dit, oh, l'année passée, on a eu, je pense que c'était 18, on a eu 15, on a eu 15 baptêmes. C'est sûr que c'est pas, on a eu juste eu 15 baptêmes. C'est un jeune, j'ai fait que je ne ferais pas ça à un pasteur plus vieux, mais c'est un jeune homme, puis j'ai pris la face, il est pris la face d'un mec, j'ai dit, regarde-moi. 15 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Si c'était une personne, c'est un miracle du royaume de Dieu, c'est beau et c'est précieux, et chaque nom est écrit dans le livre du royaume. Mais il y a quelque chose qu'il faut saisir ici. L'apôtre Paul va avoir une réalisation qui l'amène à un retour. La Bible nous dit, après avoir vécu cette expérience-là, il est allé de tous ses discours, Et après cela, la Bible nous dit, après cela, il s'éloigna d'Athènes. Il se rendit à Corinthe. 18, chapitre 18, c'est le verset exactement suivant. Et 18, verset 18. Il s'était fait raser la tête au port de Corinthe, à Sancheré, car il avait fait un vœu. Dans un instant, je vais vous lire son vœu parce qu'il nous l'a dit, c'était quoi le vœu qu'il a fait devant Dieu. L'apôtre Paul, lorsqu'il est sorti de cette expérience à Athènes, est arrivé au port de Corinthe, la ville la plus corrompue de son époque. Puis au port de Corinthe, il y a quelque chose, il y a un vœu qui a monté dans son cœur. Il y a un vœu qui a monté dans son esprit. Puis lorsque ça dit qu'il s'est rasé la tête, ça faisait partie de, c'était quelque chose, un signe extérieur, mais ça faisait partie, vous le trouvez dans l'Ancien Testament, dans Lévitique et dans le Nombre, le vœu du Nazarite, où le raser la tête signifiait simplement humilité devant Dieu, mais il y avait toute cette dimension-là de jeûne, de prière, de consécration à Dieu. C'est comme si l'apôtre Paul disait, moi je reviens, faut que je revienne, je fais un retour, j'ai une réalisation. Avant d'entrer dans Corinthe, j'ai besoin, et j'aimerais vous dire que pendant ce 14e jour du jeûne, j'ai beaucoup pensé à l'apôtre Paul. J'ai beaucoup pensé, là, ma femme a peur en ce moment. Inquiétez-vous pas, je le ferai pas. À la première réunion, je me suis dit, j'aimerais-tu? Mais non, pas vraiment, mais je me suis dit, la raison pour laquelle je peux pas le faire, ma secrétaire m'a dit, on peut pas parce qu'il y a deux réunions. Si tu te rases la tête à la première, il n'y a plus rien à faire à la deuxième. Alors, j'ai décidé plutôt de le faire avec un des pasteurs de jeunesse. Alors... Je voulais seulement vous faire sourire et surtout vous faire réaliser que ce n'est pas le signe extérieur qui compte. Mais je veux vous dire que c'est ça qui est dans notre cœur en ce moment aujourd'hui. En entrant en 2008, nous entrons en 2008 avec un vœu dans nos cœurs. L'apôtre Paul a dit, voici le vœu. Il a sorti, il avait eu cette expérience à Athènes où il a dit beaucoup de mots. Avec un résultat qui n'était pas selon ce qu'il avait expérimenté. Il y a un retour qui se fait, il fait un vœu devant Dieu dans le port de Corinthe. Et alors qu'il a fait un vœu dans le port de Corinthe, il nous dit, on sait c'est quoi son vœu, parce que lorsqu'il écrit aux Corinthiens, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, il dit aux Corinthiens, lorsque j'ai quitté Athènes, lorsque je suis arrivé chez vous, je ne suis pas venu avec des discours éloquents et avec les 20 discours de la sagesse. J'aimerais que le verset apparaisse à l'écran avec les 20 discours de la sagesse humaine. Car lorsque j'étais auprès de vous, j'étais avec vous avec crainte et tremblement. Et je n'ai désiré connaître personne d'autre excepté Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et mon ministère et mon message ne reposaient pas sur les 20 discours de la sagesse humaine, mais sur des démonstrations du Saint-Esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Car le royaume de Dieu n'est pas en parole, mais il est en puissance. Résolution de cœur. Résolution de cœur de chacun d'entre nous. Cette dimension qu'on trouve à travers tout le livre, tout l'évangile, dès les premiers balbutiements, le commencement, la fondation même. Même la fondation de l'Évangile, nous voyons cette poursuite. Et lorsque j'appelle une église à cette poursuite de la puissance du royaume pour l'année 2008, je sais, laissez-moi juste dire un mot pastoral. Je sais qu'il y en a, il y a des différentes réactions. Il y en a qui peuvent même avoir peur. Il y en a qui ont connu qui ont été tellement gardés dans l'inconnu sur toute la dimension de la puissance de Dieu dans leur pèlerinage chrétien qu'ils en ont peur. Il y en a d'autres qui ont vu des excès. Qui ont vu des choses qui étaient excessives et des choses qui étaient extérieures sans les vies transformées et sans la vie, les véritables fruits de l'esprit. Et vous avez peur de tout cela. Je vais dire aussi ceci avec amour. Il y en a lorsque on prêche ainsi sur la puissance du royaume, ça, particulièrement certains que peut-être que dans votre historique, vous avez un arrière-plan particulièrement pentecôtisant, des gens qui vont dire, ah, gloire à Dieu, on va revenir au bon vieux temps. J'aimerais vous dire que souvent on a tendance à regarder le bon vieux temps pour se souvenir juste des bonnes affaires du bon vieux temps. Je ne suis pas en train en ce moment de faire appeler pour du mysticisme bizarre ou appeler au bon vieux temps. Je veux ce que Dieu a pour nous aujourd'hui, le royaume de Dieu pour nous dans toute sa puissance dans l'année 2008. Et je veux dire à chacun, et tout le monde devrait dire amen à ceci, en 2008, pas de puissance déréglée sans parole et doctrine. Pas d'effusion sans enseignement. Pas de manifestation superficielle sans la maîtrise spirituelle, le fruit d'esprit, maîtrise de soi. Pas d'édification perpétuelle sans évangélisation passionnée. Pas de témoignage public sans transformation profonde. Pas d'élévation hiérarchique sans un esprit d'humilité. Pas d'église où il y a des petits coqs et des petits rois et des petits royaumes qui veulent être au-dessus des autres. Pas d'élévation hiérarchique sans esprit d'humilité. Pas de mysticisme perpétuel sans maturité et pardon. Alors, certains des cercles où il y a le plus de l'esprit, t'as les gens les plus rancuniers, les plus chicaniers, les plus grosses divisions. Laissez-moi vous dire qu'une des plus grandes manifestations du Saint-Esprit, c'est que même si t'as été blessé, et quand t'as été blessé, tu reçois de Dieu la capacité de pardonner et de continuer. Ça, c'est le royaume de Dieu. Quelqu'un va dire amen. Pas d'onction qui exalte sans l'ordre des Écritures. Pas de prophétie abracadabrante, un jour, sans progrès aujourd'hui. Pas d'onction surnaturelle sans obéissance sincère et sans obéissance et sainteté. Le royaume de Dieu dans l'évangile de Luc, lorsqu'on le prend au tout début, la fondation, lorsque le Seigneur l'annonce, lorsqu'il le présente, lorsqu'il l'ouvre et nous le fait découvrir, il est imprégné de cette poursuite que le royaume de Dieu n'est pas en parole, il est en puissance. On va simplement regarder quelques versets en route vers un texte qu'on va ouvrir ensemble dimanche matin prochain. Dans le chapitre 1, nous lisons, l'ange annonce le royaume, il dit, il règnera et son royaume n'aura pas de fin. Le royaume de Dieu n'a pas de fin, il est présent en 2008. Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira. » Dès le début, il y a le même combat qu'on a aujourd'hui. Elle a dit, « Comment ça va se faire? Comment ça pourrait être possible? » Vous avez le combat, dès le début, avec d'un côté, l'incrédulité, l'intellect humain, cette incapacité humaine de comprendre comment ça peut se faire. Je dirais de cette façon, c'est l'incrédulité, l'incapacité humaine, l'intellect versus l'immuabilité de Dieu et l'intervention de l'Esprit. Marie a dit, comment est-ce que ça peut arriver? Comment est-ce que le royaume, comment ça pourrait arriver? Je suis pas capable, j'ai pas la capacité, je ne peux pas, je ne sais même pas, je peux même pas imaginer comment, j'ai jamais vu rien de comme cela. Et l'ange, ça c'est l'incapacité, l'analyse, l'intellect humain, c'est l'incapacité, l'incrédulité, l'intellect humain, mais qui est en confrontation avec un Dieu immuable qui ne change pas, et l'intervention et l'inspiration du Saint-Esprit. Il lui dit comment est-ce que ça pourrait arriver? Le Saint-Esprit va te couvrir, le Saint-Esprit va venir sur toi, et il va te couvrir de sa puissance. Tu vas être couvert, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira. C'est ce que Dieu désire faire réaliser à chaque personne ici, parce qu'on a tous des choses dans nos vies où on dit, comment ça pourrait arriver? Comment ça peut se faire? Comment cela se passera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Comment mon fils peut-il, au-delà d'être poli puis juste écouter les réunions à l'église, être touché par Dieu puis marcher pour lui? Comment ma fille qui est si loin des lettres des mamans que je reçois? Comment est-ce que ma fille qui est si loin et si aveugle peut revenir? Comment cette partie de mon cœur qui est si morte depuis si longtemps peut revivre? Comment ma situation avec ma femme, mon couple, ma vie spirituelle qui est si mélangée, si difficile, comment est-ce qu'elle peut être ramenée? Comment est-ce que ce qui est malade peut être guéri? Comment est-ce que mon appel peut s'accomplir? Comment est-ce que je peux réussir à relâcher mon passé? Comment est-ce que je peux me sortir de cette dépression? Comment est-ce que je peux être le père que Dieu veut que je sois, la mère? Comment cela sera-t-il possible? En 2008, le royaume de Dieu n'est pas en parole, il est en puissance. Le Saint-Esprit te couvrira et te remplira de sa main puissante. Tout au long du texte de l'évangile de Luc, après le coucher du soleil, chapitre 4, tous ceux qui, verset 40 à 43, tous ceux, et ça m'a beaucoup touché, c'est émouvant, je trouve ça touchant, il dit, tous ceux qui avaient des malades lui amenèrent. C'est une expression particulière. Des fois, c'est les traducteurs qui sont trompés. Alors, lorsque tu fais l'exégèse du grec mot à mot, c'est littéralement, le texte dit, tous ceux qui avaient des malades. C'est comme des personnes qui disaient, ce malade-là, là, il est à moi. Des personnes qui se sentaient tellement identifiées, qui avaient tellement à cœur quelqu'un qui disait, ça, c'est mon malade, puis je veux l'amener au Seigneur. Puis le Seigneur, nous autres aussi, on a des malades. On a des gens qu'on a à cœur, leur vie, on ne vit pas juste pour nous-mêmes. On a des gens, des parents qui sont ici, que ce qui se passe dans la vie de cette personne-là, de ton fils ou de ta fille ou de ton ami ou de ce rétrograde, là, ça t'affecte, ça te touche, c'est mon malade. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est la personne, je l'ai à cœur. Et encore, en 2008, nous voulons, par la prière, par l'intercession, puis toutes les paroles qu'on a faites, on semblait frapper des murs, mais nous voulons amener nos malades à un Christ ressuscité et vivant qui va les toucher par sa puissance. Nous, on les amener, je veux les amener, Seigneur, afin que tu puisses les guérir. Et Jésus, très tôt, est en prière, et il dit, il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume. Et dans les chapitres qui suivent, on voit que dans la pensée de Christ, il n'y a pas de possibilité, juste le message du royaume sans les manifestations du royaume. Parce qu'il l'annonce, oui, mais c'est tout ce qui suit, pêche miraculeuse, guérison du lépreux, paralytique, enseignement sur le jeûne, guérison de l'homme à la main sèche. Jésus refusait de seulement proclamer le royaume et la puissance du royaume. Il voulait que sa vie et son entourage prouvent la puissance du royaume. C'est fascinant comment est-ce que tu regardes même ce que Jésus a dit. C'est vous que je choisis, puis je vais faire entrer dans le cercle tout près de moi. Ça va être avec vous qu'on va marcher ensemble, on va bâtir le royaume de Dieu. Étaient des gens qui étaient des récipients, qui étaient des trophées de la puissance de Dieu. Il allait de ville en ville, chapitre 8, annonçant la bonne nouvelle du royaume. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais. Marie-Madeleine, qui était tout près, qui était là, qui était dans l'équipe, qui était avec la résurrection, qui a annoncé avec les autres Marie la résurrection, qui avait été libérée de cet esprit démoniaque. J'aimerais vous dire qu'une des affaires, moi, il y a beaucoup de choses qui est dit sur Nouvelle Vie qui me font vraiment sourire, il y en a qui me font éclater de rire aux éclats. Lorsque quelqu'un qui visite Nouvelle Vie dit quelque chose du genre, tu connais Nouvelle Vie, tu regardes l'équipe, on dirait une machine bien huilée. J'aimerais vous dire, que le leadership de cette église est simplement des hommes et des femmes que nous aussi, nous avions nos chaînes, nos captivités, nos brisements, nos manquements, mais la main de Dieu est venue. Dieu nous a libérés. C'est lui qui nous a donné souffle et c'est lui qui nous garde vivants et qui nous rend capables de... Quel que soit... Relève ta tête ce matin, quel que soit ton passé, Marie-Madeleine et ses 7 liens démoniaques qui ont été libérés, étaient à côté du maître et marchaient avec lui. Quel que soit ton passé, le Seigneur dit, viens, lève ta tête, approche-toi de moi. Le royaume, c'est pas des paroles, c'est une puissance qui va faire que tu vas marcher avec moi et t'emparer du royaume avec moi. Il n'était pas seulement entouré de la puissance, il les envoie avec puissance. Il a appelé les 12, leur a donné autorité. Et la capacité, le pouvoir de guérir. Il les envoyait prêcher, mais aussi guérir. Jésus accueillait, il parlait, et dans la pensée de Christ, c'est même une preuve de qui il est. C'est une preuve de l'authenticité, de la véracité de son message, que le royaume de Dieu vient et est venu à vous. Les signes et les prodiges, si pas, car il dit au chapitre 11, si c'est par le doigt de Dieu, que je libère des captifs, des esprits qui les tourmentent, alors le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous. Preuve, et encore en 2008, Dieu désire prouver qui il est à un peuple qui va réussir. C'est pourquoi c'est extrêmement important que vous soyez dans les prochaines semaines, parce que nous allons regarder ensemble, c'est quoi les obstacles à sa puissance? Nous allons regarder ensemble spécifiquement, tout le monde veut la puissance, mais personne ne veut se préparer et personne ne veut se purifier. Nous allons regarder ensemble c'est quoi les obstacles et c'est quoi l'ouverture à sa puissance dans les prochaines semaines. Ne manquez pas un message. Mais il y a si j'ai parlé d'équilibre tantôt du royaume, vous direz amen à cet équilibre-ci. J'espère que cette vision que nous vous partageons trouve un écho dans votre esprit. L'équilibre de la puissance du royaume, pas de communication en 2008, pas de communication de vérité sans confrontation pour la victoire. Oui, on va communiquer la vérité, on va prêcher des bons principes, mais il doit y avoir l'onction qui vient confronter les chaînes qui t'empêchent de t'emparer de cette vérité-là. En 2008, pas de doctrine de Dieu sans le doigt de Dieu. Pas de rassemblement de croyants sans la repentance et la conviction. Pas d'études bibliques sans l'esprit de bénédiction. Pas d'annonce du royaume sans l'autorité du roi. Pas d'enseignement sans effusion, pas de message de grandir sans miracle et guérison, pas d'inspiration sans intervention, pas de proclamation du royaume sans la puissance du royaume, et pas de signes et prodiges sans la soif du peuple. Dimanche matin prochain, les premiers mots que je vais ouvrir le message, le premier mot du message de dimanche prochain, vous savez déjà l'intro de dimanche matin prochain pendant que les musiciens s'approchent. premiers mots du message la semaine prochaine vont être tirés de Luc chapitre 13. Et c'est un message que je crois un message prophétique pour nous. Pas seulement pour nous, mais pour que nous nous approprions pour nous, pour l'année 2008. Une scène des évangiles que je crois que Dieu va et veut et va multiplier mille fois dans l'Église et dans nos vies en 2008. Cette scène où la Bible nous dit que Jésus entra dans le temple le jour du sabbat et il se mit à enseigner. Et une femme qui avait un esprit qui la rendait captive depuis toutes ces années, qui était courbée et ne pouvait pas se redresser, entra. Jésus la vit et lui dit, « Femme, sois guérie, sois libérée. » Et à l'instant, elle se redressa et elle glorifia Dieu. Et dans ce jeûne, dans ce temps de jeûne et prière, il y a une prière constamment, jour et nuit, qui monte vers Dieu. Par ta grâce, Seigneur, ne permets pas à personne d'entrer courbé et de ressortir courbé en 2008. Par la grâce de Dieu, le royaume de Dieu dans notre Église et notre vie, notre famille, notre cœur, dans le secret, dans tout ce que nous faisons, ne sera pas seulement un royaume de parole. Il va être ensemble un royaume de puissance. Dans le nom de Jésus, que le peuple qui le désire dise Amen. C'est important la dernière phrase dans l'équilibre de la puissance pour le royaume. Ce que j'ai mentionné, pas de signes et de prodiges sans la soif du peuple. Et moi, je ne suis pas ici pour faire semblant. Je ne suis pas ici pour vous juste vous garder heureux ou quoi que ce soit. Je vais vous parler avec mon cœur ce matin en terminant. Cette poursuite de la puissance du royaume ne pourra pas trouver son accomplissement si un pasteur, 2, 5, 10, 15, 20, nos femmes, puis nous autres, on est là, puis on jeûne, on prie, on crie. Et qu'il y a un peuple qui, en grande partie, vient pour voir ce que ça va nous donner, mais qui continue avec la vie qu'ils avaient telle qu'elle était. Il n'y a pas de signe et de prodige sans une soif de tout le peuple. J'aimerais vous dire, j'aimerais vous inviter passionnément, plaider avec vous, qu'alors qu'on entre en 2008, que vous fassiez de cette poursuite de la puissance de Dieu une question personnelle. Moi, j'en ai besoin dans ma vie, moi aussi. Je le veux, j'en ai besoin. Je suis prêt à écouter, à entrer, à me joindre. Toute cette équipe, cette vision-là, elle est pour moi, puis elle est pour mes amis. Moi aussi, j'ai des gens. Moi aussi, j'ai besoin. Et je vais vous dire, cette soif de Dieu, c'est vraiment pas une question de doctrine ou une question dénominationnelle ou une question d'âge ou même une question de quelle sorte de vie tu as eu. C'est une question de cœur. Mon père spirituel, un de mes pères spirituels dans la foi, David Wilkerson, m'a appris ça, que la soif pour la puissance du royaume, ce n'est pas une affaire d'âge ou d'épreuve ou de doctrine. C'est une affaire de cœur qui peut être maintenue. Et lorsque tu arrêtes de chercher, tu vas arrêter de connaître sa puissance. Et je vais juste donner ces trois vignettes, juste pour illustrer ceci. Je pensais à ça dans le jeûne cette semaine. Je priais pour lui, puis je pensais à ça. 1985, David Wilkerson est né au Québec, et lorsqu'il a prêché, j'étais son interprète. Moi, je commençais dans le ministère. Et un soir, il avait à peu près 55 ans à ce moment-là. Un soir, on avait fait 12 heures de ministère, des réunions de pasteurs tout l'avant-midi, tout l'après-midi, et grand ralliement dans une aréna le soir. Il y avait des journalistes après, il y avait une conférence de presse, un repas après, une espèce de banquet après. On s'est couché tard, puis on partait à 5-6 heures le lendemain matin pour une autre ville. Et moi, j'étais jeune, plein d'énergie, mais j'étais fatigué, puis je me suis couché, je me suis endormi, puis le téléphone a sonné. Et c'était le Texas qui appelait, longue histoire courte. Et la personne au comptoir, on était dans une ville en province, parlait pas beaucoup anglais. Puis ils ont dit mon nom comme responsable du groupe. Alors ils m'ont appelé à ma chambre, puis ils ont dit il y a un message en urgence, il y avait un accident de quelqu'un là-bas. Il y a un message en urgence pour M. Wilkerson, pour pouvoir aller le réveiller à sa chambre. Alors ils m'ont donné son numéro de chambre, j'ai pris le petit ascenseur, j'étais arrivé à l'étage. Puis lorsque je suis arrivé à 3 pieds, à 1 mètre de la porte de sa chambre, j'ai entendu un bruit distinct, comme si moi j'ai pensé que c'était un enfant qui pleurait. J'ai entendu un bruit de sanglots d'enfant. Je regardais, reculé d'un pas, je regardais mon papier, c'est-tu le bon numéro, c'est la bonne chambre, je suis à la bonne place, puis j'entendais comme un enfant pleurer. Puis à un moment donné, ça doit être là, puis j'ai cogné le plus discrètement possible, puis tout de suite, il a ouvert la porte, le visage tout défait. Je dis, je m'excuse, I'm sorry, sir, c'est parce qu'il y a un message en bas. Il dit, parfait, I'll get dressed up, I'll go. Je vais aller en bas, puis il est allé répondre à son affaire. Puis tant qu'on est remonté, en plein milieu, comme 1 heure ou 2 heures du matin, puis il monte, et puis on s'est assis dans un petit sofa qu'il y avait là sur l'étage, puis j'ai osé demander, j'ai dit, êtes-vous correct? Are you okay? J'ai-tu dérangé? Qu'est-ce qui se passait? Puis il dit, I don't like, j'aime pas ça parler de ça. Mais il me dit, j'ai réalisé de plus en plus à ce moment-là, il faisait des croisades parfois avec 50 000 personnes dans des stades et des croisades partout dans le monde. Il avait fait le Colisée de Québec, Centre Pas Sauvé, tout ça. Puis j'ai réalisé, il dit que lorsqu'on fait l'appel puis que tous les gens s'approchent, il y a tellement de gens qui sont touchés par le Seigneur, mais que même dans les heures qui suivent, l'ennemi vient puis il vole la semence dans leur cœur. Puis il dit, à cette heure, il dit, après que tout le monde, tout est fini, les gens retournent à la maison parce que ce soir-là, il avait fait un appel, on avait vu plein de monde qui a accepté le Seigneur. À ces soirées-là, là encore aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont donné leur vie au Seigneur, qui servent Dieu, Luc Dumont et plein d'autres ont accepté le Seigneur dans ces soirées-là. Et lui, il me dit, maintenant, il dit, quand tout le monde se couche, puis c'est fini, il dit, je vais devant le Seigneur, puis j'intercède, puis je prie en anglais, il disait, to secure and protect. Pour aller, puis je prie sans les connaître, pour chaque personne qui s'est avancée, que l'Esprit Saint ait protégé la semence qui a été plantée dans leur cœur. Puis il dit, ce soir, il dit, habituellement, je le fais pendant un certain temps, puis je m'endors, mais il dit, ce soir, il dit, pour votre Québec, for your Québec, il dit, ça brûlait. Je vais me coucher dans mon lit ce soir-là, puis il dit, Seigneur, moi, je suis là, j'ai 24 années, puis je dors, puis lui, c'est le visiteur, mais il pleure pour ma province. La soif de puissance, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de cœur devant Dieu. Ça, c'est traversé le temps avec moi, ça c'était en 85. On se retrouve maintenant en 97. Il est maintenant 65 ou 67 ans à peu près. Puis moi, je suis invité à prêcher comme je le fais encore, mais 6 fois cette année, à aller prêcher à l'église Times Square Church. Et les pasteurs, moi je suis un pasteur. Un pasteur, ça a plein de choses dans ma vie, moi, qui sont pareilles comme la vôtre, des enfants, famille, une hypothèque, une banque, tout ça. Et toute la vie normale. Et je vois des games de hockey, etc. La vie normale. Mais il y a des choses dans la vie d'un pasteur qui sont vraiment anormales, qui ne sont pas la norme. Je sais pas si ça vous arrive d'avoir des rêves répétitifs qui reviennent, des affaires qui vous hantent, il y en a qui ont peur d'être en retard, je me lève, je suis pas habillé, toutes sortes d'affaires que tu peux rêver. Moi, j'ai des rêves comme ça de pasteur. Moi, je rêve, pas, je fais ça en blague, ça m'arrive riff. Des années, j'ai fait ces certains rêves-là des milliers de fois. Je rêve, par exemple, j'arrive à l'église, puis il n'y a personne. Vous êtes tous partis, vous venez plus. Je rêve vraiment ça. Je rêve que je parle, puis ça n'a aucun sens. Le monde se regarde tout, puis il y a certaines des fois que c'est devenu proche d'une réalité, je sais. Je rêve qu'il y a des affaires qui n'ont pas d'allure, des affaires qui ne marchent pas, les systèmes de son, des affaires tombent, etc. Puis souvent, je me réveille le matin, là, puis je suis assez heureux que c'était juste un rêve. Là, je suis assez content. Mais un de mes rêves, vraiment, puis c'est juste une parole. Le frère Wilkerson, il a dit plein de paroles qui m'ont béni, mais il a dit une parole une fois qui m'a fait rêver après son rêve pendant des milliers de fois. Lui, il sait pas, j'ai jamais dit. Mais une fois, on jasait, puis il m'a dit, ben oui, il dit, il y a quelques mois, il y a un jeune prédicateur qui est venu prêcher chez nous, puis s'est mis à dire des affaires qui n'avaient aucun sens. C'était vraiment contraire à la parole. Fait qu'il dit, je me suis levé pendant qu'il prêchait. Je me suis levé, je suis allé maintenant à côté, puis j'ai dit, donne-moi le micro. Puis j'ai dit, ça, oui, puis il dit, il est allé s'asseoir, puis j'ai dit aux gens, écoutez, c'est un bon garçon, mais il était dans l'erreur. Alors, on va continuer maintenant sans lui, puis. À partir de ce moment-là, je me suis dit, ça va m'arriver un jour, il va me le faire, tu vois. C'est pour ça que quand je prêche là-bas, si jamais vous venez m'écouter à New York, le frère Wilkerson, il est là. Puis, de temps en temps, je regarde, mais je focus sur ce bord-là. Je prêche sur ce côté-là. Puis, une fois, dans mes rêves, c'est terrible. Dans mes rêves, il est comme en gros plan, puis il marche au ralenti, puis il s'en vient. Puis, il dit, « Give me the mic! Donne-moi le micro! » Et puis, une fois, pour le vrai, 1997, tu es en train de prêcher sur la soif de Dieu. C'est la soif de Dieu. Est-ce que vous avez la soif de Dieu? La soif de Dieu. Puis d'un coup, deux, trois fois, j'avais regardé, puis il était super sérieux. Il me regardait super sérieux. Puis, fait que je me suis vraiment concentré sur ce côté-là. Puis là, je prêchais la soif de Dieu, la soif de Dieu. D'un coup, je prêche la soif de Dieu, puis j'ai le malheur de me revirer de bord. Puis, tant qu'il a vu que je regardais, il se lève. Puis moi, je parlais, puis c'est incroyable. Vous avez déjà vécu, mais les prédicateurs savent ça. Des fois, tu peux être en train de parler, puis il y a plein d'affaires qui se passent. Il se lève, moi, je continue à parler le mieux que je peux. Mais là, je me suis dit, il s'en va aux toilettes, il s'en va, il a chaud, il a froid, c'est l'enlèvement. Moi, je reste ici, c'est pas grave, lui, il s'en va. Ben non, il s'en vient vers moi. Il s'en vient vers moi. Là, j'arrête de parler. Toute l'église, les yeux de 3000 personnes en même temps. Pif! Tout le monde, les yeux. Il s'en vient vers moi. Puis là, je le regarde, je fais signe, le micro, il dit oui. Oh, God. C'est pas à moi, vieux. Je donne le micro avec, tu sais. Il dit pas un mot, pas un son. 67 ans. Tombe à genoux devant l'église. Tombe à genoux. Seigneur, c'est moi qui ai besoin de la soif spirituelle. Elle est où, ce message est pour moi? Elle est où, ma soif à moi? C'est quand la dernière fois, Seigneur, que j'ai juste pleuré face à quelqu'un qui est un itinérant en avant de mon église? C'est quand la dernière fois que j'ai juste pardonné quelqu'un qui m'a fait du mal? Seigneur, c'est quand la dernière fois que j'ai juste lu ta parole, pas pour tirer un sermon, juste pour être nourri par toi? C'est quand la dernière fois, hors de l'église, que je te genouille, que je te chantais des cantiques d'amour? Seigneur, c'est moi, 67 ans, c'est moi qui a besoin de toi, Seigneur. J'ai soif de toi. Aide-moi à retrouver ma soif spirituelle pendant 2 heures. J'ai vu pas un instrument, rien. J'ai vu 2 000, 3 000 personnes commencer à pleurer partout dans la salle parce qu'il y avait un homme qui était là. Bon, la soif n'avait pas d'âge. 2007, octobre 2007, Chantal et moi, on est allés à Paris faire une conférence de pasteurs avec 1200 pasteurs. J'ai traduit encore une fois maintenant. Maintenant, il a 77, 78 ans. Le corps est fatigué. Difficulté à entendre d'un côté, difficulté de vision, d'équilibre, corps un peu courbé, un pas qui est un peu faible, une force dans son esprit, une flamme en lui. Puis un soir, il a apporté un message incroyable et j'ai demandé à la fin, il m'a dit, je suis fatigué, est-ce que tu peux faire l'appel? J'ai dit, oui, je vais faire l'appel. Il est allé s'asseoir, puis j'ai vu sortir pour aller vers la salle de repos à côté, puis j'ai fait un appel et c'était le message pour moi, l'onction est venue et les pasteurs pendant 1h30 à 2h. Des pasteurs en prière partout à travers l'Europe qui étaient là. Et moi, j'étais tellement prostré, je me suis couché par terre, le visage contre terre sur l'estrade, puis je pleurais, puis je priais. Puis le temps a passé comme ça, plus d'une heure et plus. D'un coup, j'ai une pensée, je me suis dit, hey, le frère, ou quelque chose, faut que je m'occupe de lui, je vais être sûr qu'il est correct, je vais être sûr qu'il retourne bien, puis toujours toutes sortes de choses. Et je me suis relevé vite, suis les yeux, relevé vite pour aller m'occuper de lui, pour être sûr. J'ai comme oublié pendant ce temps-là, là, j'étais capturé dans le moment. Puis lorsque j'ai sorti du stage, je suis arrivé dans la petite salle, lui et sa femme, à genoux, crie à Dieu. J'ai soif de toi. J'ai besoin de toi. Je veux ta puissance dans ma vie. Seigneur, donne-moi une parole pour ces hommes. Donne-moi des années d'onction. Donne-moi. J'aimerais vous dire, ce n'est pas une question d'expérience. Ne crois pas le diable qui dit que toi, ce qui t'est arrivé te donne le droit d'être juste un figuier sèche. Non. On a tous vécu des drames. On a tous vécu des choses difficiles. Mais ce n'est pas une question d'âge et ce n'est pas une question de doctrine. C'est une question de cœur. Alors, si vous voulez bien, Église Nouvelle Vie, je vous appelle, pas seulement les pasteurs et les leaders, j'appelle toute l'Église à vous lever avec moi et à dire, Seigneur, en 2008, le royaume de Dieu dans ma vie ne sera pas seulement en parole, il va être en puissance. Et ceux qui veulent le rechercher avec moi disent un dernier grand Amen. Est-ce qu'on peut applaudir ce que Dieu peut faire? Alléluia! 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 Avant qu'on chante quoi que ce soit, tendez vos mains vers Dieu. Commencez à parler au Seigneur quelques minutes, juste quelques instants. Tu es grand, Seigneur. Alléluia. Je veux juste même avant qu'on chante, parce qu'on peut même se perdre dans un chant parfois. On peut chanter passionnément, mais ce matin, c'est votre cœur que Dieu veut entendre. Est-ce qu'on peut lever nos voix? Juste quelques minutes, les musiciens vont jouer et Sébastien va nous conduire juste dans un temps de recherche de Dieu. Juste quelques instants, préparant cet après-midi. Tout le monde, soyez là cet après-midi. Soyez là dimanche matin prochain. Puis, Seigneur, nous savons que tu es grand. Et nous savons que ton nom est tout puissant. Et moi, en 2008, Seigneur, je veux rechercher la puissance de ton royaume. Que dans ma vie, le royaume ne sera pas en parole. Il va être en puissance. J'ai besoin, moi, de ta puissance. J'ai besoin que tu viennes toucher quelque chose dans ma vie. J'ai besoin. J'aimerais vous entendre lever vos voix pendant quelques instants. Seigneur, tu es grand. Tu es grand, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Pour moi, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, viens, pardon, viens que le royaume soit pas du parlage dans ma vie, mais soit de la puissance. Mon Dieu, je t'amène mon malade, je t'amène ce qui est malade en moi, je t'amène ce qui est malade dans ma famille, je t'amène ce qui est malade, Seigneur, dans mon cœur, dans mon passé, dans mon présent. Je t'amène, Seigneur, mes rêves et mes désirs. Je t'amène, Seigneur, ce qui est sec et ce qui a besoin d'être ressuscité. Oh, viens, mon Dieu! Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant ce matin pour toi. Et Dieu est grand pour toi ce matin. Déclare la grandeur de Dieu. Seigneur, tu es grand. Ton royaume, c'est pas seulement des paroles, c'est de la puissance. C'est pas seulement une chanson, c'est une déclaration prophétique pour la vie de mes nuits. Oh, tous verront,
tous verront combien.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.